Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Bonsoir Ravéli Lemel et Shavuot Tov.
Bonsoir et Shavuot Tov.
Ah là là, on a laissé les fêtes de Hanouka derrière nous, on a un petit pincement au cœur. Là voilà, Shabbat vient de sortir, mais Tevet, paraît-il, est un très beau mois. Et donc on va le vivre pleinement. Et on arrive vers une nouvelle paracha. Donc après Miketz, c'est Vaïgash. C'est le moment où ça démarre sur la rencontre entre Yehuda et Yosef. Yehuda veut récupérer absolument son frère Benjamin. Enfin, bon, c'est une des plus belles parachutes, hein, évidemment, comme toutes celles qui se suivent là et qui racontent l'histoire de nos patriarches. Mais il y a une question qu'on se pose tous, et c'est pour ça donc qu'on a besoin de vous. C'est l'attitude de Yosef. Alors, Yosef, donc, a pris un otage, en fait, non ? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il sait que son père est à l'article de la mort depuis son propre... qu'on l'a vendu, lui, depuis son propre départ. Il n'est pas franc du collier, il ne dit pas les choses... Enfin, je ne vais pas le démolir, mais on a quand même un a priori de départ en lisant ce texte qui est quand même très perturbant. Je peux aligner encore hein, les choses comme ça. Il plonge dans l'angoisse ses frères, pas seulement son père, tout le monde. Alors qu'il suffisait dès le début de dire, ben voilà, comme il le fera plus tard, voilà, c'est moi, je suis votre frère. Alors pourquoi il faut qu'il passe par ça? Est-ce que il se venge, par exemple? On parle beaucoup de vengeance en ce moment. Yosef se venge, Rav Lemel?
Alors justement, évidemment qu'il ne s'agit pas de vengeance. Et c'est vrai que ici, n'oublions pas qu'on est face à Yosef. Yosef qui est quelqu'un qui est l'expression même de la remise en cause. C'est celui qui, lorsqu'il s'est retrouvé en prison 2 ans supplémentaires, c'est-à-dire lorsqu'il avait demandé au maître Échanson d'intervenir auprès du pharaon, celui-ci... ne l'avait pas fait, et Yosef s'interroge, et pendant ces 2 ans où il s'interroge, il réalise qu'il aurait peut-être dû faire autrement, il n'aurait peut-être pas dû lui dire d'intervenir de cette manière, mais pas dû lui dire d'intervenir tout court. Et donc Yosef, c'est la raison pour laquelle, quand il se retrouvera après chez le pharaon, rappelons-nous, quand le pharaon lui dit « j'ai entendu que tu savais interpréter », Yosef va dire « non, Biladai mort, rien du tout, pas du tout, tout ça c'est Dieu ». Donc on est quand même face à un personnage qui est incroyable. N'oublions pas que dans la souka, on allait à vote, dans les fameux houchpizines, les invités, et puis il n'y a qu'une seule des tribus, c'est Yosef. Yosef, c'est celui qui est le principe du yesod, du fondement. Yosef, c'est celui qui rappelle le nom de Dieu de manière constante. Yosef, c'est celui qui a une forme de yo-yo incroyable dans sa vie, préféré de son père, jeté en prison, de nouveau surintendant chez Potiphar, rejeté en prison, vice-roi d'Égypte, avec une constante dans sa manière d'agir. Donc, évidemment, s'imaginer que Yosef voilà, est là et dire « bon, ben, je vais punir mes frères », ça ne voudrait strictement rien dire au fond. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Et je crois qu'il faut ouvrir dans une perspective un petit peu plus large. Yosef, au fond, pressent, s'est dit, au moment où il avait raconté ses fameux rêves, qu'il y aurait deux grandes royautés, que le Mashiach aurait une double dimension, ça serait d'abord Yosef et puis après Yehuda. Yosef, c'est quoi? C'est celui qui est censé créer l'harmonie et le lien entre les frères. Et dans un second temps, eh bien, c'est le Mashiach ben David, c'est de la tribu de Yehuda qui arrive la délivrance finale. Et quand Yosef racontait ses rêves, il était en train de dire au fond, oui, il était au centre parce que c'était sa fonction de les réunir tout autour de lui, mais pour pouvoir faire advenir une histoire qui n'allait pas s'arrêter à lui. Et puis les frères, justement, c'est eux qui ont une difficulté parce que, comme l'explique d'ailleurs très très bien alors Moshe Shapira, ils ont une petite lecture qui n'est pas très exacte des choses. Il y avait un peu de jalousie, donc ils n'ont pas su véritablement ce qu'il était en train de leur dire parce qu'il y avait quelque chose qui les touchait personnellement. Donc on voit qu'on a ici un personnage qui est incroyable. Et évidemment, tout ce qu'il va faire, et vous l'avez fort bien posait comme problématique, c'est qu'il est en train de faire un tikkun, une forme de réparation, parce que justement, il y a eu la rupture, il y a eu la déchirure entre les frères, et là, il va falloir raccommoder et recréer cette union. Et pour cela, eh bien, Yosef, évidemment, il a un amour pour son père immense, il sait que son père est en souffrance, et il prend Shimon. Il prend Shimon, il dit, ben, Shimon, il va aller en prison. Et puis vous allez maintenant repartir chez vous et ramener votre petit frère. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il espère au fond qu'ici, et c'est ce que les frères vont faire, ils se laisseront interpeller. Dès le moment où il prend Shimon et il agit de cette manière, ils disent « Waouh !» Les frères se disent « Waouh !» Ils reviennent à une histoire qui s'est passée des dizaines d'années d'avant. Ils disent « Mais Asher Haïn ou Tsarat Nafsho, nous avions vu au moment où il souffrait, il nous criait, il nous demandait, je vous en supplie, ne me mettez pas dans ce puits. » Et nous, on était totalement insensibles. Et donc, c'est extraordinaire parce que, au fond, Yosef veut, à travers cela, les amener à prendre conscience de leur erreur, parce que ce qu'il veut, parce qu'il les aime profondément, il veut qu'il y ait un tikkun, il y ait une réparation, parce que Yosef sait très bien qu'ils se sont trompés, il ne veut pas qu'ils soient sanctionnés pour cela. Et donc, pour cela, eh bien, il leur propose une remise en question, en les confrontant à une situation qui les amène à réfléchir. Et c'est ce que les frères font. Les frères, au fond, eh bien, déjà commencent à s'interroger. Mais après, il veut aller plus loin, il veut savoir où en est la fratrie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous lisez le Midrash, quand les frères redescendent avec Binyamin, eh bien, ils forment une forme de haie protectrice autour de lui. Ils ne le lâchent pas. Ils ne le lâchent pas. Et c'est là où on pénètre notre paracha. Et au moment où Yosef l'accuse d'être voleur, donc est en train, au fond, de les remettre face à une réalité d'une violence inouïe, parce que, mais au fond, donc ça veut dire que les enfants de Rachel sont des voleurs, quoi. Yosef, il veut voler la royauté, et puis Binyamin, il vole. Et il y a une réalité qui est face à eux qui est complètement folle, incompréhensible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi il a volé? Parce qu'ils ne peuvent même pas imaginer que ce vice-roi d'Égypte, qui est leur frère, mais il ignore complètement à cacher sa coupe. Et là, eh bien, il dépasse. Il dépasse quelque chose. Ils sont capables de dire, eh bien, on lâche rien. Et Yehuda arrive et il se positionne face à Yosef d'une manière, et le Midrash est incroyable, d'une manière, d'une violence inouïe. Va y gâcher la vie Yehuda. Yehuda se présente à lui et Yehuda dit, non, même pas en rêve. C'est pas possible. Binyamin a peut-être volé. C'est pas le sujet. On le ramène, on s'est engagé, on le ramène. Et on raconte ce combat, j'ai presque envie de dire titanesque, entre Yosef et Yehuda. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Yosef, il ne peut pas se retenir, mais il se retient encore de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il veut voir jusqu'à où ça va. Il veut voir jusqu'à où ça va, jusqu'à où, en effet, ses frères ont compris. Ses frères, maintenant, ont totalement changé. C'est-à-dire quoi? Qu'ils sont dans la relation de fratrie authentique dans laquelle, eh bien, le lien reste. Le lien reste et il ne bouge pas. Pourtant, Binyamin, a priori, ben, il pourrait lui dire « mais tu nous as mis en danger, enfin, c'est quoi cette histoire de fou ?» Non. À ce moment-là, Yosef s'ouvre. À ce moment-là, Yosef se révèle. À ce moment-là, il dit « partez chez mon père, dites-lui. » Pourquoi ? Parce que le tikkun, la réparation a été faite. La réparation de cette rupture dans la fratrie a été obtenue. Et puisqu'elle a été faite, alors à ce moment-là, l'histoire du clan d'Israël, elle peut commencer. Et c'est ça, au fond, qui est ici une leçon incroyable, c'est cette idée de la fratrie. C'est-à-dire, comment faire pour, à l'intérieur du peuple juif, garder cette dimension de fraternité et de ne pas commencer à chercher des responsabilités chez X, Y, Z, W. Parce que même si on peut penser qu'il y a une responsabilité, mais concrètement, la relation ne bouge pas et on est ensemble et on fait bloc ensemble face justement à cet ennemi qui n'en est pas un, mais qui l'ignore pour l'instant, qui est Yosef. Et donc, une fois que cela a été fait, à ce moment-là, il peut se révéler. À ce moment-là, en effet, il peut dire au père, à ce moment-là, le tikkun a été fait, la réparation a été faite et l'histoire du peuple d'Israël peut se mettre en place. Voilà un petit peu ce qui se joue, au fond, dans la relation que Yosef a avec ses frères. Quelque part, ce qui est très intéressant, c'est de voir que Yosef aurait très bien pu dire « Bon, moi, ce qui m'importe, c'est que mon père sache que je vais bien. Et puis bon, ben, mes frères, ils ont fait cette erreur, ben, tant pis, ils se débrouilleront pour réparer, quoi. C'est pas mon problème. Non, Yosef, parce qu'il aime ses frères, justement, veut absolument leur donner les moyens de faire disparaître cette tâche qui est sur eux. Il veut absolument provoquer chez eux ce que j'appellerais cette tchouva. Il veut leur donner les moyens, à un moment, de laver la tâche qu'ils ont faite. Pourquoi ? Parce que, au fond, quand on aime quelqu'un profondément, on n'a qu'une envie, c'est que sa vie se conjugue au plus que parfait. On n'a qu'une envie, c'est donner à l'autre les moyens de s'extraire d'une dimension négative pour pouvoir être plus grand. Et d'ailleurs, c'est le propre de tous les tzadikim qui sont là. Et vous savez que c'est un petit peu, au fond, la caractéristique, je pense, incroyable du peuple juif. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais j'ai discuté l'autre jour avec une personne qui n'est pas du tout juive et qui me disait, mais moi, si je devais aller vers une religion, j'irais vers le judaïsme. Et je lui ai demandé, mais pourquoi ? Elle ne connaît pas vraiment ni le Shabbat ni le reste, mais elle m'a dit, votre fraternité. Et c'était un cri du cœur, et c'était extraordinaire, votre fraternité, votre sens de la solidarité, qui se manifeste et qui est là et qui est une constante dans l'histoire. La grandeur des tzadikim qui prient pour leurs frères, qui prient pour la totalité de leurs frères, sans aucune différence. Le fait de se sentir concerné, vous savez, le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le directeur de la Yeshiva de Mir, le Rosh Yeshiva, eh bien, en 1973, il est rentré dans le Beit HaMidrash, dans la maison d'études, au moment où la guerre commence, il dit juste ce verset, « Ha'achechem yalchou la milchama v'atem teshvupo ». C'est un verset de la Torah dans lequel, c'est dans l'histoire de Gad et Rouven, on ne va pas rentrer dans les détails, mais dans lequel, à un moment, Moshe s'adresse au peuple d'Israël, à une fraction, à deux tribus et demie, il leur dit quoi, vos frères vont partir en guerre et vous allez rester installés ici. Et sur la base de ça, Rav Chaim Shmulevitz leur dit, mais si vous ne faites pas la guerre là où vous êtes, dans le Beit HaMidrash, dans la maison d'études, si vous n'étudiez pas jour et nuit en vous dépassant, vous êtes des déserteurs. Vous êtes des déserteurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, eh bien, cette notion de solidarité, de se sentir profondément concerné par l'autre, elle est au cœur même de l'identité du clan Israël. Et c'est ça que Yosef est en train de leur apprendre. Pourtant, eux ont mal interprété, ils ont mal compris, ils ont voulu mal comprendre, ils ont fait preuve à un moment de ce qu'on appellerait d'une forme d'insensibilité. Yosef ne garde pas dans son esprit les souvenirs d'un passé pour ne pas être ce qu'il doit être maintenant vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est véritablement ce qu'il nous apprend. Parce que trop souvent, l'individu a tendance à bien entretenir les souvenirs du passé pour s'empêcher de recréer le lien. Or, justement, Yosef nous dit non. Le passé, je ne l'installe pas à l'intérieur de ma vie pour m'empêcher de recréer le lien de fraternité. C'est ce qu'il est en train de faire, pardonnez-moi, à ce moment-là, et quelque part, de nous renvoyer à nouveau eh bien, le message sur ce que le peuple d'Israël doit être, et ce, tout au long de son histoire.
Le judaïsme pose la question, en fait, c'est une Mishnah qui dit, qui c'est le fort, le vrai fort ? Qui c'est ? On est en guerre, là, en ce moment, en Israël. C'est qui le vrai fort, le héros ? Akovesh et Yetzro, celui qui est capable de dominer ses propres penchants à lui. Je parle sous votre contrôle, bien sûr, hein, Rav. Et qui est celui qui est capable de se combattre lui, c'est lui le vrai fort. Pas celui qui est capable de tuer 30 personnes. Et qui est l'exemple ? Yosef. Yosef qui est capable, face à la femme la plus belle du monde, de dire « Non, moi je fais pas ça. » Et je pensais à ça en vous écoutant, parce que quelqu'un qui est capable d'une chose pareille, il voit ses propres frères, il sait que son père, il est, j'allais dire, il en est malade de toute cette histoire, et tout ce qu'il pense à faire, il fait retarder le truc. Non. Donc effectivement, on avait besoin de vos explications et de toute cette lumière sur notre paracha Rav Lemel.
Exact, et c'est vrai que cette notion au fond que Yosef a, il l'a, et je me permets juste de rapporter ça, il l'a de sa mère, de Rachel, qui était capable alors qu'elle voit que ce n'est pas elle qui va être amenée au mariage avec Yaakov, de se taire, qui va être capable quand sa sœur Léa plus tard lui dira « Mais tu m'as pris mon mari », parce que Léa est persuadée qu'en vérité c'était elle qui devait être l'épouse de Yaakov, de se taire. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a une identité forte, lorsqu'il y a une construction personnelle authentique, eh bien, il y a cette capacité à un moment de savoir taire ses émotions qui peuvent pousser l'individu à prendre des mauvaises décisions, parce que justement, on a conscience qu'on est là pour faire avancer et construire l'histoire.
Ravelli Lemel, je vous remercie et Shavuatov.
Shavuatov.
Et on retrouve à présent Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shavuatov.
Shavuatov.
Alors Rav Mordechai, pour vous, la rencontre, donc on est toujours dans Vaïgash, la rencontre entre Yosef et ses frères, c'est la quintessence d'une rencontre. C'est la quintessence de la haine gratuite, c'est une histoire de haine gratuite, tout ça. Mais c'est aussi l'amour gratuit. On retrouve tout ici. Alors on vous écoute avec beaucoup d'attention.
On va s'intéresser effectivement à ce qui constitue l'essence même de ce qu'on appelle en hébreu la Torahah, c'est-à-dire ce qu'on traduit maladroitement en français par la réprimande, parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. On va comprendre qu'au travers de la Torahah, c'est-à-dire finalement cette manière de démonter le système de l'autre, on va comprendre aussi que se niche finalement la racine de l'amour gratuit et de la haine gratuite. Alors, dans la paracha de Vaïgash, on va donc assister aux retrouvailles entre Yosef et ses frères. Et à un moment donné, donc Yosef va se dévoiler à ses frères. Et c'est à ce sujet-là que Rashi cite le Midrash, Yalkut Shimoni, sur paracha de Vaïgash. Il dit la chose suivante. Rabbi Shimon ben Elazar dit « Malheur à nous au jour du jugement, malheur à nous au jour de la Tochacha. » On fera ça par la réprimande. Yosef, qui était le plus petit des frères, eh bien, lorsqu'il s'est révélé à ses frères, ils n'ont pas pu lui répondre, n'ont pas pu tenir devant lui, ils se sont effondrés, affolés de cette révélation subite. De la même manière, lorsque Akadosh Baruch Hu, Dieu se révélera à nous, et qui viendra à chacun s'adresser à lui selon ses actes, alors encore plus à ce moment-là, effectivement, on aura à rougir en quelque sorte, et on ne pourra pas tenir comme les frères de Seth n'ont pas été capables de tenir devant leur frère qui s'est révélé à eux. Et la question qui se pose, et qui est posée par le Sirot Moussa, où est-ce qu'on a vu que Yosef a adressé une réprimande à ses frères? La seule chose qu'il avait, il leur a dit « Je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant ?» Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit « Vous êtes en train de me dire que si vous repartez sans Binyamin, puisque les frères se retrouvent maintenant devant Yosef, et ont enfin amené Binyamin, et vous me dites que si vous repartez sans Binyamin, eh bien, mon père va mourir. Mais moi, je suis Yosef, sous-entendu que vous avez vendu. Vous n'avez pas pensé à ça, vous m'avez vendu. Quand vous m'avez éloigné de mon père, lorsque vous avez fait souffrir mon père, lorsque mon père s'est retrouvé finalement en deuil pendant des années, tout ça, vous n'y avez pas pensé. Est-ce qu'il est encore vivant, mon père, auquel vous n'avez pas pensé à l'époque ? » Qu'est-ce qu'il a fait ici, Yosef ? Il a tout simplement démonté leur système d'argumentation. Et au fond, dans la Tochacha, ce dont il s'agit, c'est les ochiach, on dit en hébreu. C'est évidemment prouver à l'autre que son système est incohérent. Et finalement, dans cette exigence telle qu'elle est formulée par la Torah elle-même, ochiach, tochiach et amitera, la Torah nous dit dans Parashat Kedoshim, qu'on a une obligation d'adresser une réprimande à son prochain, sous-entendu une tochacha, c'est-à-dire de démonter son système et de lui démontrer l'incohérence de son système pour le mettre face à lui-même. Et on trouve ici finalement la racine de la haine gratuite et de l'amour gratuit. Dans Parashat Vaïgash, on voit que Yosef et ses frères finalement se sont rapprochés. Pourquoi est-ce qu'ils se sont rapprochés? En fait, ils n'avaient pas la même conception de l'histoire du peuple juif. Pas la même conception du rôle des tribus. Pour les frères de Yosef, Yehuda devait être le roi et le dirigeant, alors que dans les rêves que Yosef avait faits et qu'il avait racontés à ses frères, il racontait que des étoiles se prosternaient devant lui, que des épis de blé se prosternaient devant lui. Les frères avaient compris que Yosef devait être un roi. Qu'est-ce qui opposait Yosef à ses frères sur le fond? C'était ce que devait être la royauté en Israël. Comment diriger le peuple juif et notamment comment le diriger lorsqu'il s'agirait de la révélation finale de l'âme Israël, de l'époque messianique. Finalement, qui serait le roi, qui serait le dirigeant d'Israël? Cette discussion-là, c'est une discussion que nos sages appelleraient une discussion bêta, c'est-à-dire qu'elle concerne l'intelligence, le discernement des gens. Mais en fait, au fond, les frères sont d'accord qu'il faut qu'il y ait un roi, Ils sont d'accord que Dieu a créé le monde, que Dieu veut que ce peuple-là soit le peuple qui soit le peuple de Kohanim, le peuple à nation sainte. Ils sont d'accord pour que ce peuple reçoive la Torah. Ils sont d'accord pour que ce peuple vive selon les règles de la Torah. En fait, ils sont d'accord sur tout, sauf sur, finalement, leur compréhension de la structure du peuple juif. Alors, la structure du peuple juif suppose qu'il y a un roi. Et dans la paracha de Vaïgash, cette paracha-là que nous allons lire la semaine prochaine, dans la paracha de Vaïgash, on voit que Yehuda s'approche de Yosef. De quoi s'approche-t-il exactement? Et nos sages vont nous dire, en fait, les frères se sont retirés, et ils ont dit, ces deux-là sont des rois. Yehuda est roi, il s'adresse au vice-roi d'Égypte, on va laisser les rois se débrouiller entre eux. Et de manière métaphorique, ce que nos sages nous disent, c'est qu'en fait, les frères ont dit, on se retire et on laisse maintenant les deux rois décider entre eux de la manière dont le peuple juif doit être conduit. Et finalement, lorsque ce rapprochement a lieu, eh bien tout le monde comprend quel est le rôle de Yosef, quel est le rôle de Yehuda. Le rôle de Yosef, ça va être d'être Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire la période et les hommes ce réveil de Ham Israël qui va provoquer la Géoula, qui va appeler la délivrance, qui va souhaiter la délivrance, qui va prier pour la délivrance, qui va agir pour la délivrance. Et Yehuda, c'est le roi d'Israël, c'est le roi David, c'est le roi Shlomo, c'est les rois de la maison de David, c'est tous ces dirigeants qui descendaient de la tribu de Yehuda, et dont même les sages en Babylonie veillaient à ce que ce soit eux, ce qu'on appelle en français les exilarques, c'est-à-dire les chefs des communautés juives en Babylonie, étaient pendant très longtemps des gens qui descendaient de la tribu de David. Et l'idée étant toujours la même, au moment où le Mashiach, où le Messie se révélera, qui sera le roi, un descendant de la maison de David. Donc tout le monde comprend qu'il y a ici, dans Parashat Vayigash, finalement, un accord sur quoi, finalement? Sur une conception du peuple juif. Et il y a là, ici, la racine à la fois de la haine gratuite et de l'amour gratuit. Finalement, les gens croient en Dieu. Les gens pensent que Israël est un peuple qui a reçu la Torah et qui doit l'incarner. Mais les gens ont une éducation, donc ils ont un conditionnement, donc ils ont une manière de penser, ils ont une manière de se référer finalement à leurs affects, à leur conception, à leur idéologie, une certaine vision du monde. Et donc sur cette base-là, ils vont construire une identité, et ils vont forcément ils vont forcément penser que celui qui n'incarne pas cette identité, c'est un autre, c'est un ennemi, c'est un adversaire, c'est une personne dangereuse, c'est une personne qui me nuit. Et c'est comme ça que la haine gratuite apparaît. Lorsqu'on oublie tout simplement que très souvent nous pensons des choses et nous avons des idéologies, nous avons des idées, parce que nous avons été conditionnés et éduqués à penser d'une certaine manière. Mais en fait, il y a plein de gens dans le monde qui pensent différemment de nous. Et ces gens ne constituent pas une menace. C'est la racine ici de la haine gratuite dans le peuple juif, et la racine de l'amour gratuit, c'est de comprendre que finalement, on est tous les enfants d'Hachem et qu'aucun d'entre nous n'a le privilège de représenter Hachem sur Terre. Ce privilège n'existe pas. Il y a un privilège qui est donné collectivement à Israël, qui est que c'est un peuple qui est responsable d'un projet qui est d'imprimer l'image divine dans le monde, par la Torah, par les mitzvot. Ça, c'est une responsabilité collective. Mais en fait, au milieu de ça, il y a des chemins de vie qui nous y mènent et qui sont des chemins de vie différents. Et si on comprend que finalement, les gens sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont des chemins de vie différents, alors on peut comprendre qu'ils aient aussi des conceptions différentes et on peut comprendre aussi qu'ils ne représentent en rien une menace, mais tout simplement une altérité. Ils sont autres, ils sont différents. Et ça, c'est fondamental parce que même dans les couples et dans les familles aussi, c'est comme ça. On a tous des histoires, des familles et des affects différents. Et donc, ce qui fait qu'on peut se retrouver, c'est qu'à un moment donné, on accepte la différence, on accepte la souffrance de l'autre, on accepte que l'autre puisse avoir un nefesh, un psychisme différent de nous. Et donc, on accepte de comprendre qu'en fonction de ça, il va choisir certains comportements, il va choisir certaines références, et donc on peut calmer comme ça les conflits. C'est une idée qui est fondamentale. Am Israël, le peuple juif, se dirige, je l'espère, vers la fin de cet affrontement avec le Hamas. Pour autant, on n'en a pas terminé avec nos ennemis génocidaires et mortifères. Mais on voit déjà se réveiller en Israël ce qui nous a troublés pendant un an. Et il est temps que et les politiques et les gens comprennent ce qui est en train de se passer dans le peuple aujourd'hui, c'est-à-dire chez 99% des juifs du monde entier et des restes d'Israël. Chacun commence à comprendre qu'il est grand temps de mieux se connaître, de mieux se parler, de mieux s'apprécier, et de comprendre que si parfois on a des différends, ce sont tout simplement des différends qui sont dus au fait qu'on a des éducations et des visions différentes. Mais en fait, on vient tous d'une même racine, d'un même dat, d'une même intelligence première, qui était celle de Adam Harishon. Et c'est fondamental de s'en rappeler, et c'est ce qui va nous permettre, je pense, d'aller vers la prochaine période avec beaucoup plus de sérénité.
Ramon Derhabiton, je vous remercie. Et je vous souhaite Shavua Tov à Jérusalem. Bonsoir à vous. Une semaine de paix à Jérusalem. Shavua Tov.
Shavua Tov. Des très très bonnes nouvelles pour Am Israël et pour nous tous.
Rav Gay est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Rav Gay.
Bonsoir.
Shavua Tov. Alors, okay. On va réfléchir sur la personnalité de Yosef avec vous, Rav Gay. Et c'est vrai que Yosef est connu pour être quelqu'un qui sait maîtriser ses pulsions. Mais alors, vous avez envie de vous poser la question avec nous ce soir. Mais alors, s'il sait maîtriser ses pulsions, quel est le mérite? Puisqu'il sait faire. Parce que j'ai presque envie de dire, si je parlais de quelqu'un comme moi, bah pour lui, c'est pas dur. Alors, où est le mérite? Rav Gay, on vous écoute.
Alors, je voudrais ici citer les enseignements de Rav Yerucham Levovitch, c'est-à-dire le Mashgiach, le responsable spirituel, un des responsables spirituels de la Yeshiva de Mir, avant la Seconde Guerre mondiale. Et ce grand maître de la génération... Qui était spécialiste, on peut dire, du Moussard, dans la fameuse école de Rav Yisrael Salanter, de ses disciples, lui-même disciple du Sabbat de Kelem, dit la chose suivante. Il dit que, en fait, chacun d'entre nous, chaque être humain, a une qualité dans laquelle il excelle. En fait, on l'a donné sens. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de travailler, puisque c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et il nous le donne pas pour rien, c'est pas un cadeau en fait totalement gratuit, c'est en fait un outil que Dieu nous donne pour travailler toutes les autres midot, parce que malheureusement on a aussi une très très mauvaise mida, un trait de caractère très négatif, et celui-là, pour le maîtriser, on a besoin, entre autres, de cette qualité parfaite que Dieu nous octroie à la naissance. Alors chez Yosef, il dit que c'était de nature, il était naturellement un homme qui dominait ses pulsions. Il était très exigeant avec lui-même, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait du mal à comprendre ses frères. Il les critiquait. Il les critiquait pas parce qu'il faisait des fautes, mais parce qu'il n'avait pas la même exigence spirituelle que lui. Lui était très exigeant avec lui-même, et il se retrouve justement dans sa vie, dans une situation où il a besoin de cette force pour dominer sa pulsion qui aurait pu naître devant Madame Potiphar, qui lui faisait des avances tout le temps. Et puis après, lorsqu'il devient vice-roi d'Égypte et qu'il est puissant, évidemment, il aurait pu se laisser aller à la débauche, mais il se maîtrise, il se domine. Et on voit dans le premier rachi de la paracha de Shemot, il insiste sur le fait que Yosef, il était le même. C'est-à-dire le même Yosef qui était chez son père Yaakov dans un milieu très protégé, dans un cocon familial particulièrement protégé au niveau spirituel, eh bien, il reste le même alors qu'il a des tribulations absolument incroyables, vendu par ses frères, menacé, d'abord donc sollicité par Madame Potiphar, puis après jeté en prison, et puis après devenir vice-roi d'Égypte. Tout ça, ce sont des événements extrêmement violents et qui peuvent déstabiliser plus d'un. Et lui, Yosef, il reste imperturbable, il est toujours là, en train de dominer toutes ses pulsions, il arrive à se maîtriser lui-même, c'est sa nature. Sauf, c'est la question qu'on s'est posée, si c'est la nature de Yosef, alors finalement, quel mérite il a, puisque c'est naturel chez lui, c'est évident. La réponse, c'est justement ça. C'est que Dieu nous donne une très grande qualité, mais notre rôle sur Terre, c'est de la conserver intacte, jusqu'au jour de notre mort et le jour de notre mort inclus. C'est-à-dire être capable de conserver d'une façon parfaite cette qualité. Or, qu'est-ce que fait Hachem dans notre vie, notre vie? Tout simplement, il nous met dans des situations d'épreuve, de mise à l'épreuve, justement où cette qualité-là, qui est la nôtre et qui nous est tout à fait particulière, qui nous est dans laquelle on excelle, eh bien, il nous met dans des situations de grande épreuve où nous devons savoir choisir de conserver, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, comme diraient certains, quoi qu'il en coûte, de garder cette qualité d'une façon absolument parfaite. C'est comme un trésor, je compare ça des fois à un vase en cristal, très fragile, mais très beau, et parce que justement il est très beau et très fin, eh bien il s'abîme facilement. Eh bien, cette qualité-là, même si c'est notre qualité que nous avons naturellement, du fait que nous avons beaucoup de défauts, eh bien ces défauts vont justement aller se mettre sur la route de cette qualité, vont peut-être abîmer cette qualité. Et justement, ce que Dieu attend de nous, c'est notre capacité, nous tester sur notre capacité de la conserver. Ou Yosef, c'est le même Yosef qui était chez son père et qui va être le même Yosef vivre en Égypte, le même Yosef en prison. Je vous rappelle quand même que Yosef aurait pu se laisser aller pour beaucoup de raisons. La première, c'est qu'il a été vendu par ses frères. Donc il se dit, voilà, cette famille, c'est une famille de gens infréquentables, insupportables. Comment un frère peut-il vendre son propre frère? Donc il aurait pu déjà être dégoûté et tout rejeter. Puis après, lorsqu'il résiste à la femme, à Madame Potiphar, il se dit, Dieu me récompense comment devant cet acte de bravoure incroyable? Il me récompense par 12 années de prison, 12 ans de prison dans des conditions difficiles. Donc il peut se dire, franchement, Dieu m'a abandonné. Puisque suite à cette belle mitzvah que j'ai faite, cette force incroyable que j'ai dû développer pour résister, bah, la récompense que j'ai, c'est d'être jeté en prison. Puis après, lorsqu'il devient vice-roi d'Égypte, il a tout le monde à ses pieds. Il a qu'à dire à Pharaon, je suis intelligent, je sais tout, je fais tout, et se glorifier. Mais non, il dit, c'est Dieu, Bilad Elohim, c'est Elohim qui est avec moi, c'est Dieu qui m'accompagne, et c'est ce que retiendra Pharaon. Il dit, nous avons en face de nous un homme sage, mais surtout un homme accompagné d'une spiritualité et d'une fidélité à son Dieu qui est absolument incroyable. Et donc, nous allons le nommer vice-roi d'Égypte. Et lorsqu'il est vice-roi d'Égypte, il a en plus une réussite financière, si je peux dire comme ça, puisque tout l'argent, évidemment, des Égyptiens, mais pas seulement, il amasse des sommes, des trésors incroyables, parce qu'il a la nourriture, et autour, c'est la famine. C'est le seul à pouvoir distribuer donc cette nourriture, et il ne la distribue pas gratuitement, c'est payant, et donc les gens s'appauvrissent, mais lui, il s'enrichit d'une façon incroyable, lui et Pharaon. Donc là encore, c'était l'occasion pour lui de se dire, bon, je suis l'homme le plus puissant, le plus riche, je suis beau, je suis séduisant, je réussis, etc., etc. Et bien tout simplement de se dire, ben voilà, je vais me laisser aller. Et non. Yosef résiste, il reste cet homme d'une spiritualité absolument irréprochable, d'une fidélité à Dieu irréprochable. Il est cet homme extraordinaire que nous célébrons évidemment pendant ces parachiotes, Mikkel, Vaïgash et déjà Vaïeshev. On voit cet homme qui résiste, cet homme qui est au rendez-vous et qui va même pouvoir, devant ses frères, Yehuda, pardonner. Alors, est-ce qu'il a vraiment pardonné? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a recueilli ses frères qui l'ont vendu. Il va les accueillir dans des conditions extraordinaires dans le pays de Goshen, un pays très riche, dans lequel on ne manque de rien, alors que ses frères l'ont vendu. Il aurait pu prendre une vengeance. Non, il ne fait rien de tout cela. Il reste le même Yosef, c'est-à-dire celui qui a une exigence envers lui-même, pas de vengeance, pas de ressentiment, pas de rancune. Je suis votre frère, vous avez fait ce que vous avez pensé être bon. Là maintenant, vous le regrettez, on tourne la page. Quelle force! Et on voit comment il pleure à plusieurs reprises, il est donc ému par ses frères. Tout cela, cette force de Yosef, nous vêtement force le respect, force d'admiration, mais surtout nous inspire en nous disant que nous aussi, on n'a peut-être pas la même qualité que Yosef, mais on a certainement une, très très particulière, et ce qu'Hachem attend de nous, c'est même pas de nous battre contre nos défauts, c'est de conserver cette qualité envers et contre tous, contre vents et marées, et il y a des vents, il y a des marées, il y a des difficultés, et bien de la conserver, et si nous la conservons intacte, après 120 ans, Dieu nous récompensera et nous dira, voilà, bravo, t'as été un bon chaliard, t'as été un émissaire, t'as réussi ta mission. Ta mission, c'était justement de conserver cette belle qualité, ben tu l'as réussi. Tout cela, je dis au nom de Ravi Rucham Leibovitch, c'est dans son livre d'Atre Rochman Mossar qu'il l'explique. Et c'est très important de connaître sa qualité. Alors vous allez me dire comment on la connaît, comment la découvrir, comment la déceler. Il faut prendre un peu de temps. Par exemple, le soir, on peut faire ça le matin aussi, à midi, enfin, peu importe à quelle heure de la journée, où on fait un bilan de nos midot. C'est-à-dire, on voit quels sont les traits de caractère qui se sont révélés, qui sont apparus dans les dernières 24 heures. on fait ça plusieurs jours d'affilée, on verra qu'il y a des fautes, enfin des défauts qui apparaissent, mais il y a aussi des qualités qui apparaissent, et en particulier une qui va être très très prenante, très très, qui va être particulière, qui va être visible, qui va sortir du lot et qui va nous démontrer que finalement, peut-être qu'on n'en est pas conscient, mais on a une qualité énorme, énorme, c'est un cadeau que Hachem nous a donné, à nous de la conserver, quoi qu'il arrive. Et c'est comme cela que nous réussirons notre vie spirituelle et notre vie tout court, comme Yosef a réussi la sienne, nous la réussirons si nous sommes conscients des forces que Dieu nous donne en nous. Ne parlons pas de nos défauts, on essayera de les combattre d'une façon détournée, en conservant notre qualité, tous nos défauts vont se mettre de côté, vont s'amenuiser, vont disparaître au bénéfice de cette grande qualité. Alors on parlait ensemble de la défaut, par exemple de la colère effectivement c'est un défaut très très grave, mais là aussi il y a des moyens de se combattre tous les défauts si on sait quelle est la qualité que nous avons, et cette qualité nous permet de beaucoup mieux et beaucoup plus facilement arriver à nos fins. Voilà ce que je souhaite à tout le monde.
C'est alors attendez, avant de vous laisser partir Rav Guay, parce que vous m'interpellez, je vais me permettre de vous poser deux questions. La première, c'est que j'ai aussi entendu autre chose, c'est qu'au contraire on est sur Terre pour travailler sur ses défauts. Alors après, moi, je vais vous faire du niveau Heder, hein, ça ne va pas aller beaucoup plus haut, mais par exemple, Yitzhak, il est Midatadin, il doit faire des efforts de l'autre côté, là où on ne l'attendait pas. Avram, c'est exactement le contraire. Bon. Et on voit tout ça dans nos vies. Donc, j'imagine, on voit tous dans nos vies, mais pourquoi moi, ça me tombe ça? Parce que c'est toi qui dois faire attention de ne pas être comme ça. Donc, restons sur la colère. Pourquoi on m'a mis juste en face d'un voisin qui m'énerve? C'est pas possible, vous pouvez pas habiter ailleurs. Non, parce que toi, tu dois apprendre à vivre avec ce voisin-là. Et ça, c'est ma première question. Et la deuxième, j'ai presque envie de vous dire, la question, j'ai presque envie de la formuler comme ça. Est-ce qu'il y a deux chitotes? Il y a Rav Leibovitch qui, lui, pense comme ça, mais par exemple, votre maître Rav Volbe, il pense autrement, par exemple, peut-être? Qui dit non.
Alors...
Voilà. Attendez, mais j'en ai une deuxième. qui est aussi perturbante. Pourquoi à nous dans nos vies en moins important, mais à nos pères de manière aussi énorme, Dieu donne-t-il des épreuves comme celle-ci? Avram, il fait un truc que personne ne peut faire. Personne ne refera. Ah, il a fait, il s'appelle Avram. Personne n'ira sacrifier son fils. C'est lui qui fait ça. Il arrive, sa femme est morte. Yosef, comme vous venez de nous dire, personne, c'est même écrit, je ne sais pas qui a écrit ça. Je crois que c'est un midrash, ça va plus loin que les... Que les Rishonim, mais quelqu'un de très important qui a dit personne ne peut faire ce qu'il a fait Yosef. Avec une femme comme ça qui était. Personne ne peut dire non. 12 ans de prison, comme vous venez de dire, c'est ça. Là. Pourquoi? Et donc, nous, dans nos petites vies, on fait un truc, on dit quoi? Ouais, c'est à ce moment-là que ça y est, je ne peux pas rentrer chez moi. Pourquoi ça se passe comme ça?
Alors, pour répondre à votre deuxième question, je répondrai que une deuxième qualité de Yosef, c'est la Emouna et le Bitachot. C'est-à-dire il est très, très fort dans ce domaine. Il a une confiance en Dieu inébranlable. Et il se dit, si il a été vendu, s'il se trouve en Égypte, si ceci, cela, il se dit, c'est pas par hasard. Alors, en plus, il a été quand même encouragé par ses rêves. Je vous rappelle les deux rêves qu'il a fait dans Parashat Vayeshev, où il voit ses frères se prosterner devant lui. Lorsqu'il devient vice-roi d'Égypte, il se dit, Eureka, j'ai compris. Il les voit arriver pour acheter la nourriture et se prosterner devant lui, il dit, voilà, tout simplement, mes rêves se réalisent. Donc, il est encouragé parce qu'il voit que ce qu'on lui avait dit par ses rêves se réalise, et en plus il a ce trait de caractère très particulier d'avoir une confiance absolue en Dieu et prendre les choses avec beaucoup de confiance,
du recul
et d'une façon sereine. Alors c'est vrai qu'il souffre énormément d'être vendu par ses frères, mais lorsqu'il arrive en Égypte, qu'il voit cette femme de Potiphar, enfin Madame Potiphar, qui s'acharne, il se dit bon, c'est pas par hasard, il se trouve que j'ai cette qualité d'être capable de me maîtriser, et bien si Dieu m'envoie dans ces situations, c'est certainement parce qu'il veut sublimer cette qualité, il veut lui donner la possibilité de se révéler dans toute sa splendeur. Donc toute sa vie, il se dit, tiens, moi je comprends bien, je suis en mission. C'est comme quelqu'un qui est en mission parce que l'armée, le chef d'état-major l'a envoyé en mission. Il se rend bien compte que si on lui a demandé à lui de faire telle mission, c'est parce qu'on sait qu'il a telle et telle qualité, que c'est le meilleur pour réaliser cette mission. Donc Yosef, c'est un soldat. Il est là pour bosser, il n'est pas là pour faire une belle vie et se reposer sur ses lauriers. Il sait que c'est un combat permanent et il est là, comme un soldat, et il réussit parce qu'il comprend quelle est la mission, et il sait qu'il a les forces pour pouvoir se mesurer à toutes ces difficultés, parce qu'il a tout simplement les qualités dont je viens de parler. Et à part ça, vous parlez d'Abraham et des difficultés d'Abraham. Abraham, par exemple, il a la qualité de la générosité, du chesed. Et qu'est-ce que Hachem lui dit de faire ? Fais la guerre. Fais la guerre contre quatre rois pour récupérer l'autre. Ensuite, il lui dit, chasse Ishmael. Ensuite, il lui dit, Ligot fait Akedat Yitzhak. Il dit, mais attendez, qu'est-ce que vous me demandez, Hachem ? C'est pas du tout mon
rayon. C'est pas mon rayon,
ça. Ben justement, Hachem lui dit,
donnez ça aux autres.
Non, justement, tu as cette qualité-là. On va voir si tu es capable, malgré cette nature généreuse et dans laquelle tu accueilles tout le monde, de rejeter Ishmael lorsqu'il le faut, parce que Dieu l'a demandé, et de faire la guerre lorsqu'il faut faire la guerre. C'est exactement ça. Dieu dit, je veux que tu sois un soldat. Un soldat, il fait la guerre. Il fait la guerre contre qui ? Contre lui-même. Et c'est ce que fait Abraham tout le temps. Donc lorsque quelqu'un est coléreux, il se dit, voilà, j'ai pas de chance, Hachem, Dieu m'a mis un très mauvais défaut. Effectivement, c'est un défaut très grave et très difficile à gérer. Mais là aussi, le Rav Wolbe, il a aussi une solution sur la colère. Il dit qu'en fait, la colère, on peut pas vraiment la dominer, la maîtriser à 100%. Parce que effectivement, lorsque ça monte, c'est très difficile de se maîtriser. Mais attention, il y a des façons, différentes façons de réagir dans la colère. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire, lorsque je me mets en colère, au lieu de frapper sur la table ou de jeter des assiettes en l'air, je vais m'isoler dans la salle de bain, prendre une douche froide, avoir un punching ball, faire six tours de périph, et ça va me calmer. C'est-à-dire que la colère ne doit pas absolument pas déboucher obligatoirement sur des réactions qui sont absolument inacceptables et inexcusables. On peut être en colère, être coléreux, mais la réaction face à la colère, on peut la travailler à travers un exercice, comme on fait des exercices physiques pour tout simplement devenir un peu plus souple et avoir des bons muscles plus forts. Eh bien, on peut également s'exercer dans un moment de colère, avoir des réactions qui sont totalement différentes que celles qu'on avait avant, que l'on regrette très fort après, une fois que la colère est passée. Donc la colère, on peut peut-être pas facilement la maîtriser, mais en tout cas l'orienter, la canaliser, et en ce qui concerne tous les autres défauts, on peut, je pense pas qu'il y a de discussion là-dessus, je répète, Rav Yerucham Leibowitz, pour moi, c'est le maître de Rav Wolbe, donc Rav Wolbe va certainement pas discuter avec lui, c'est lui qui le cite d'ailleurs, c'est dans les livres de Rav Wolbe que j'ai lu ce que je viens d'enseigner de Rav Yerucham. Donc c'est son maître et il pense la même chose. C'est, je vous rappelle, l'élève de Rav Israël Salanter, donc on est dans vraiment une approche
très haut niveau.
On est vraiment dans des gens qui ont bien compris le message et qui le transmettent. Donc je pense pas qu'il y a des grandes discussions là-dessus. Et vous dites, il faut combattre les défauts, oui. Mais comment les combattre ? Et là, il propose une autre stratégie que celle que vous avez peut-être entendue. Parce que se battre sans arrêt sur ses défauts, malheureusement, on est tous au courant de ce qui se passe. On se bat lorsqu'on se bat en frontal. Alors on tient X jours, et puis après, on retombe. Et là, il propose d'utiliser ce qu'on appelle un mouvement de tournant, une stratégie différente, comme dans une guerre où il faut faire un détour et prendre l'ennemi à revers. Ici, renforcer ses forces positives pour justement faire en sorte que les forces négatives, les défauts, soient mis de côté. Peut-être pas, ils ne disparaissent pas, mais au moins ils sont mis de côté au bénéfice des forces positives qui sont en nous. Voilà le programme que propose Rav Yerucham. Évidemment, il faut se battre contre ces mauvaises midotes, ces très mauvais traits de caractère. Mais attention, en frontal, il y a peu de chances qu'on tienne longtemps. Mais en faisant un peu de stratégie, comme un peu une attaque militaire, une attaque contre un ennemi, il faut avoir beaucoup d'intelligence et de stratégie pour pouvoir le contourner sans lui faire, sans s'opposer directement à lui. Voilà ce que propose le Rav Wolbe dans son livre, et je pourrais évidemment développer cette idée bien plus en donnant des exemples très concrets. Par exemple, vous voulez que je vous donne un exemple ?
Bien oui.
Prenez un exemple. Allez. Quelqu'un est paresseux, mais il a une qualité. Donc très paresseux, mais il a une qualité, il est responsable, il sait assumer des responsabilités. Donc si il a cette qualité-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, au lieu de me laisser aller à la paresse, je vais prendre des responsabilités. Je vous prends un exemple, vous avez du mal à vous lever pour aller à la tefila le matin avec le minyan. C'est trop tôt, vous restez au lit, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Ben, je vous donne la clé du centre.
Je suis obligé d'aller.
C'est vous qui ouvrez. Vous serez debout le premier. Ou bien toutes sortes de responsabilités dans lesquelles vous n'avez pas le choix. C'est pas le choix. Vous devez dépasser vos problèmes, vos défauts. Et en particulier, si on parle de la paresse, Et c'est une façon de vous avez compris, ne pas rentrer en frontal avec la paresse, mais utiliser les qualités que vous avez pour contourner ce problème.
Très bien.
C'est un exemple.
Ben, c'est un très beau programme. Vous avez utilisé le mot de programme. On va le garder. C'est un très beau programme. Pas toujours facile, mais c'est un beau programme. Rav Guay, je vous remercie. Shavuatov.
Shavuatov. Au revoir.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shavuatov. Et vous retrouvez dans un instant du côté de chez Schwartz, qui vous est présenté par Sandrine Schwartz.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari, Shalom shokat shoy bet.